Après avoir vraiment remercié Sabine et Fabien pour cette invitation, à laquelle j'ai répondu tout de suite favorablement, parce que ça fait quand même des années qu'on constate que les ouvriers du tertiaire sont majoritaires dans le groupe ouvrier, sans qu'il y ait eu, à mon avis, encore une journée consacrée à cette question. C'est donc une grande première. Et ça m'a tout de suite intéressé, ce défi, avec une perplexité sur qu'est-ce qu'il allait pouvoir en sortir de commun. Voilà. Et donc, ça va être un peu le fil de mes réflexions conclusives. Avant de poser quelques questions, une ou deux questions maximum à chacun des intervenants de l'après-midi, mais je souhaitais surtout faire un retour sur l'ensemble de la journée autour de cette question. Hors des usines, est-ce que une définition ou une approche autre que par simple différence ou par simple négation est intéressante pour approcher ces mondes des ouvriers en dehors des usines? Autrement dit, est-ce qu'on peut trouver du commun, ou au moins, si ce n'est trouver du commun, trouver un intérêt à des explorations de ces mondes en termes de réinterrogation critique de nos acquis sur le monde du travail ouvrier en usine? Un peu comme ça que je me suis demandé si on pouvait réfléchir. Alors, après, mon premier constat, finalement, la forme usinière du travail ouvrier a-t-elle été un jour majoritaire numériquement dans notre pays? Je me demande si la question ne mérite pas d'être posée. De la même manière qu'on a pu la poser dans d'autres travaux à propos de la norme fordienne d'emploi stable, à durée permanente, avec un seul employeur, à temps plein, etc. Est-ce que cette norme dite fordienne ou kinéso-fordienne d'emploi a-t-elle été numériquement majoritaire? De même qu'on a pu se poser la question, en y répondant franchement à cette dernière, la figure de l'homme ouvrier blanc de la grande industrie a été clairement minoritaire. Et pourtant, elle a été promue comme figure centrale symboliquement, et elle a fait écran à des tas de réalités ouvrières. Donc je pense qu'il faut se poser la même question à propos du travail en usine et du travail en dehors de l'usine. De manière un peu bébête, si on fait aux différentes périodes de l'histoire ouvrière française la somme des activités hors industrie et usine au sens strict, c'est-à-dire les activités de la construction, le bâtiment, les travaux publics, la construction navale, le travail agricole, les ouvriers agricoles, le travailleur des transports, dont on a vu pas mal de figures aujourd'hui, travailleur des commerces, travailleur du nettoyage, bref, tout ça, ça fait énormément de monde, travailleurs de l'État, qui sont pas strictement dans des usines, tout ça, ça a toujours fait beaucoup de monde. Et si on ajoute que la figure de l'usine au sens strict, la figure manufacturière du 19e siècle, n'a jamais totalement évacué les formes artisanales situé aux franges de l'industrie manufacturière ou de l'usine. Voilà, ça mérite de poser cette question d'un retour critique sur le poids peut-être un peu exorbitant qui a été accordé dans les travaux sociologiques, voire historiques, à la figure de l'usine pour comprendre le travail ouvrier. Aujourd'hui, l'emploi industriel, c'est 10 à 12%. Bon, si on ajoute quelques centaines de milliers d'emplois qui sont déguisés en emplois tertiaires parce qu'ils relèvent de l'intérim, en fait, on va arriver à 15%. Bref, c'est très minoritaire en France, tout en rappelant qu'à l'échelle planétaire, il y a un développement du travail en usine. J'en redirai un mot tout à l'heure. Donc, il faut bien vraiment aujourd'hui prendre au sérieux cette question du travail hors usine. Alors, essayons de prendre quelques dimensions qui bougent quand on approche le travail ouvrier en usine et hors usine. La question, ça a été cité, des fois je répète des choses, la question de l'espace et du rapport à l'espace. On a tout de suite l'opposition entre la fixation au poste de travail et des formes de mobilité, d'itinérance. La question du rapport au temps, indissociable de la question du rapport à l'espace, puisque qui dit usine dit pointage, là parfois oui, parfois non. L'aéroport plus que jamais, pointage, dans les entrepôts logistiques j'imagine aussi pointage, ailleurs non, pas de pointage. Les modalités de la subordination, et de la subordination. Qu'est-ce qui de la subordination passe par le contrôle machinique des gestes professionnels? Qu'est-ce qui passe par l'apprentissage du métier et l'autodiscipline par le métier? Qu'est-ce qui passe par le contrôle hiérarchique, la supervision directe du chef? Et là, de ce point de vue, on a un clivage fort hein, qu'on rencontre dans beaucoup de témoignages d'ouvriers qui ont souvent connu finalement les deux figures du travail. Hein, le travail en usine, figure répulsive parce qu'il y a le chef justement et qu'on est enfermé. Dans tous ceux qui ont une expérience d'enquête en milieu ouvrier, elles sont frappées par cette force du rejet à la fois de l'enfermement, de la signalisation au poste et de la supervision du chef qu'on retrouve jusqu'à ses facteurs, par exemple, que je connais bien pour enquêter parmi eux depuis quelques temps. Le premier intérêt du métier, c'est de pas d'être dehors et de pas avoir de chef en permanence sur le dos. Mais le chef est remplacé par d'autres formes, on le sait bien, de contrôle aujourd'hui. Mais je voulais quand même pointer d'abord ça. Question des frontières externes et internes au groupe. Question des modes d'évaluation de la qualification. Qualifié, non qualifié, ça marche moins bien. Question d'autres trajectoires sociales. Question d'autres modes de construction des identités collectives. Et là, je vais en dire un mot. En reprenant ce constat, finalement, quels sont les groupes professionnels qui ont constitué l'image, sinon la mythologie, de la classe ouvrière? Ce sont souvent des groupes professionnels hors usine. Dockers, cheminots, mineurs. Je ne vais pas parler des mineurs, mais dans la mine, on n'est pas strictement, au sens strict, dans l'usine. Donc voilà, ça montre bien qu'entre l'identité ouvrière, l'identité de classe ouvrière et les identités professionnelles telles qu'elles sont liées ou non à l'usine, il y a des tas de médiations très compliquées, notamment les médiations de la construction des identités professionnelles et syndicales, dont Michel Pigenet nous a donné un exemple qui est toujours assez extraordinaire, quoi. C'est-à-dire ce passage du marché des esclaves à une figure... une figure extraordinaire du mouvement ouvrier, le docker, avec cette identité de métier, d'identité de classe complètement intriquée, comme l'a bien montré ce Grestin avant ou en même temps que tes travaux. Hein. Voilà. Donc, question très très compliquée et passionnante de l'articulation, de l'intrication entre les différentes échelles des identifications du métier au groupe professionnel, à la classe et à d'autres. Qui sont tous sauf simples. Et de ce point de vue, il faut peut-être relativiser le rôle joué par la situation de travail, usinière ou non usinière, dans toute cette dynamique très compliquée des identifications qui fait qu'on se sent ou pas ouvrier, telle que la question a été posée aujourd'hui de manière un peu récurrente. Finalement, ils se sentent quoi? Est-ce qu'ils se définissent comme ouvrier ou pas? Dernier point, un peu transversal comme ça, c'est la question de la modernité, finalement, du travail non ouvrier, du travail ouvrier hors usine. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, qui me semblent jouer un peu comme miroir grossissant de transformation globale dans le travail et dans le monde ouvrier, usine ou hors usine. Par exemple, des choses qui ont été dites sur les désillusions des jeunes titulaires de petits diplômes professionnels par rapport à leurs attentes. On pensait échapper à l'usine en allant vers un travail ouvrier hors usine et finalement on rencontre quelque chose qui ressemble étrangement à l'usine et on est d'autant plus déçus. Là, il y a le beau travail sur la maintenance à la RATP hein, qui est quand même très très significatif de ce phénomène qui a traversé pas mal de communication. J'ai envie de dire aussi, deuxième point sur ce côté, le côté hyper moderne de ce travail, parfois en tous les cas, peut-être pas systématiquement, parce qu'il me semble que dans ce travail ouvrier hors usine, on a des figures qui sentent la poussière, excuse-moi, mais dont on peut penser qu'elles sont archaïques et qu'elles sont en voie de disparition. Les éclusiers, 500. Les dockers, ils sont plus que 500, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'il y a quelques décennies. Et puis, il y a ces centaines de milliers de jeunes ouvriers de la logistique. Moi, la formule qui m'est venue, chassé par la porte de la délocalisation industrielle, le travail ouvrier revient par la fenêtre du développement d'activités de transport et logistique sur le territoire national. Un peu ça, le mouvement. Hein. Donc, peut-être une délocalisation du travail ouvrier industriel vers l'Asie, par exemple, ou vers l'Europe centrale, mais en même temps, il revient sous la forme du développement largement invisible, peut-être, mais réel, de ces emplois très prolétarisés, finalement, hein, de la logistique. Et dernière réflexion, là, ça fait plus allusion aux travaux anciens, déjà, de Pierre Naville, hein, développement d'industrie continue, d'industrie de flux, développement d'une économie de réseaux peut-être invisibles, mais de réseaux qu'il faut entretenir. Les réseaux de transport de différentes sortes sont des réseaux qui nécessitent une main-d'œuvre de maintenance extrêmement importante. Hein, et donc là, il y a de la modernité dans le travail ouvrier hors usine. Tout ce travail de maintenance des réseaux hyper modernes de transport, hein, et de gestion des flux. Voilà. Donc ça, c'était quelques remarques transversales. Alors pour nos intervenantes cet après-midi, je reviens à ma première question pour Reinhardt, c'est-à-dire finalement ma question portait surtout sur les formes d'auto-organisation de ces métiers, hein, des fleuves, des canaux. Forme d'auto-organisation et forme d'auto-représentation. C'était plutôt ça ma question. Et donc, suite aussi à l'intervention de Michel, toujours la nécessité de faire l'histoire pour comprendre comment ça s'est construit, ces représentations. Il y a aucun déterminisme technique, je crois, hein, dans la construction des formes d'organisation et de représentation professionnelle et sociale. Et donc, voilà, si on pouvait avoir un petit éclairage là-dessus. Pour Constance, c'était les autres stratégies que celles de l'insertion dans la modernité organisationnelle pour faire face à la dégradation un peu du prestige et du métier, hein, de camionneur, qui ont été évoquées sans être développées. Pour Michel, il y a tellement de questions à poser sur cette histoire absolument extraordinaire. Non, simplement une petite, peut-être un petit prolongement à un point que tu as dit. Tu as dit, c'est intéressant de noter que la Fédération des ports et docks CGT, c'est celle qui a accueilli le syndicat du nettoyage, hein, de la propreté. Il se trouve que j'ai dirigé une thèse sur, qui portait entre autres sur le syndicat de la propreté à Marseille. La thèse de Christina Nizzoli, où elle montre que il y a cohabitation finalement, hein, de ce petit syndicat très 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 peu contrôlé par les instances syndicales, qui est le syndicat des travailleuses et des travailleurs de la propreté, et les dockers qui sont très loin en fait, hein, donc l'amalgame s'est pas fait. Si tu avais un éclairage à faire là-dessus. Pour ce qui concerne l'exposé de Fabien, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une situation tout à fait exemplaire, sans guère d'équivalente, de superposition entre la hiérarchisation des statuts d'emploi et la hiérarchisation des qualifications. Hein, avec aussi une exemplification de ce que fait la précarisation aux formes de discipline au travail. Plus besoin de discipline d'usine, une discipline par le régime de faveur, hein, finalement, sous la menace de l'exclusion vers le chômage. C'est un peu comme ça que j'ai envie de résumer ce que j'ai trouvé intéressant pour cette journée dans son exposé. Et puis aussi, le fait que qui est vraiment la ligne, hein, de son exposé, là, pour moi, la dialectique entre l'insécurisation de l'emploi, la déstabilisation des emplois et la montée de la nécessité de procédures de contrôle de plus en plus strictes de l'activité de travail, et bien cette dialectique, elle a une valeur, me semble-t-il, très très transversale aujourd'hui, hein, dans le monde du travail. Donc voilà, c'est peut-être pour dire aussi que cette journée, c'est pas seulement une somme de monographies sur le travail ouvrier hors usine, mais c'est aussi une contribution à la sociologie du travail contemporain.
Merci.
On peut peut-être faire comme ce matin, on va redonner la parole à oui. Sens inverse, mais peut-être pas bien. Justement, si on répond à la question de la
J'avoue que je.
Il faut appuyer deux secondes.
Ça marche. Bon, Paul, je suis un peu perplexe et je ne sais pas très bien comment comprendre ta question. Alors, soit je te passe le micro et tu m'expliques, soit j'improvise quelque chose qui est un peu différent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu parles, par exemple, de formes d'organisation du travail
Non, je pensais plus, par exemple, aux formes d'organisation syndicale.
Alors... les formes d'organisation syndicale sont finalement pas tellement liées à une question de métier, de profession, mais dans ce genre d'organisme public, à une question d'implantation tout simplement régionale ou même locale. Hein, c'est-à-dire que suivant la situation, suivant une histoire plus ou moins longue et pertinente, c'est à un endroit... force ouvrière, à un autre endroit la CGT et à un troisième endroit la CFDT ou Sud éventuellement. Mais c'est des logiques qui ne sont pas des logiques qui sont directement liées à l'activité, mais très fortement liées à une histoire locale d'un engagement d'un militant tout à fait particulier ou une histoire encore beaucoup plus lointaine d'un mouvement revendicatif sur un lieu ou sur une zone, hein, parce que c'est quand même très territorialisé cette activité, même si elle est le long des voies d'eau. Est-ce que ça répond un petit peu parce que après la façon dont ils se représentent eux-mêmes et la façon dont ils peuvent faire figure de référence à l'intérieur de leur propre organisation en l'espèce VNF ou éventuellement
problème de pile.
Low battery.
Ah.
Je vais peut-être essayer comme ça. Alors, j'ai choisi exprès parmi l'ensemble des agents de la voie d'eau
les éclusiers.
Parce que c'est le métier qui semble, y compris en interne, comme le plus emblématique vers l'extérieur. Hein, c'est la chose, quand on pense à la voie d'eau et quand on se dit, ben, finalement, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent d'une façon fixe sur la voie d'eau ? Au bout d'un moment, ben, on se dit, ah ben tiens, oui, il y a des éclusiers. Hein, c'est quand même finalement la figure la plus communément admise par la suite. Hein. Parce qu'il y a des métiers qui sont encore beaucoup plus invisibles. Et alors, du coup, ça permet peut-être de dire quelque chose par rapport à cette question de l'invisibilité. Hein, les barragistes ou les gens qui font à proprement parler de la gestion hydraulique, c'est-à-dire qui s'occupent de la gestion et de la transition des énormes masses d'eau qui font les bassins hydrauliques et qui sont le fait d'ouvriers qui vont à tel endroit en fonction de tel moment de l'année, de la journée, du niveau d'eau à tel, qu'ils ont relevé à tel endroit, qui lèvent une vanne ou qui, au contraire, la baissent. C'est quelque chose qui est encore beaucoup plus invisible et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'existence même des territoires. Alors, du coup... Peut-être pour discuter un petit peu avec Fabien, il y a des gens qui sont invisibles du côté des ouvriers des pistes, hein, par exemple, mais il y a aussi des gens qui sont invisibles de la, du côté de la préparation et de la gestion des vols. Il n'y a pas uniquement de l'assistance au sol, mais il y a aussi de l'assistance en vol. Et c'est aussi des métiers qui sont relativement invisibles, alors qu'ils ne relèvent là sûrement pas des métiers de d'ouvriers, quoi. Hein.
Justement, par rapport à ce point-là, c'est dans une logique de dévalorisation de l'ancien métier. Alors là, il faut se référer aux travaux de Florence Osti, de l'ancien métier de, enfin, qui existe toujours, de chef avion, qui de plus en plus a été déqualifié par la, si vous voulez, la relégation, enfin, du moins le fait que c'est en back office maintenant qu'on prend, qu'on conçoit les plans de vol de plus en plus, alors que à la base c'était le chef avion qui opérait directement, qu'on appelle aussi coordinateur, parce que son métier, c'est de coordonner justement les différents services d'assistance et les différents flux sur l'aire de stationnement lors de l'escale, et qui avant était quelqu'un qui faisait aussi notamment quelque chose qui était reconnu dans sa qualification, qui est le plan de charge. Hein, où il y a eu des notions, bon, c'est de l'ingénierie très simple. Enfin, il a un statut de technicien. Maintenant, je veux dire, l'ensemble de ces fonctions techniques sont prises en charge en amont par des personnels en back office. Et j'ai envie de dire, c'est une dévalorisation des deux fonctions. Parce que ces logiques de back office, je vois bien, s'accompagnent d'une dégradation, même si c'est pas quelque chose que je vous fais un peu à la louche, c'est pas quelque chose que j'ai pu vraiment étudier, mais c'est cette logique-là, on concentre ces personnels-là, alors qu'avant, dans certains endroits, je sais pas comment ils gèrent les contrats, s'ils sont tous embauchés par une même entreprise, ou si on sous-traite complètement le back-office, mais je pense que c'est possible. Il y avait une partie dont j'ai très peu évoqué dans ma thèse, justement, c'est ces agents de trafic, ce qu'on appelle agents de trafic, qui sont un poste, c'est-à-dire que c'est des gens que je voyais quasiment pas dans l'entreprise, et pourtant, ils étaient sur place, qui, je pense, conçoivent à la chaîne, si vous voulez, les plans, gèrent toute l'information à ce niveau-là, pour la société sous-traitante. Hein. Et le poste de coordinateur qu'on peut appeler aussi responsable zone avion, maintenant c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que de la coordination, hein, comme l'explique Florence Osti, même si elle, je pense qu'elle s'est plus focalisée sur pas des employés des sociétés sous-traitantes, mais des gens dans les compagnies aériennes. Hein. Dans les sociétés sous-traitantes, c'est encore moins valorisé. Pourquoi ? Parce que c'est des plus petits vols, généralement. Hein. Par exemple, Air France fait de l'auto-assistance sur ses vols transatlantiques. Hein. Ils veulent pas... c'est des vols qui sont plus techniques, qui doivent être plus importants. Ils veulent pas être dans cette logique de réduction des coûts. Par contre, sur ces compagnies régionales, c'est sous-traité. La preuve, j'ai été dans une entreprise qui faisait certains de ces vols. Intéressant maintenant, la promotion, ça c'est en même temps, ça a valorisé, oui, je suis désolé, ça a valorisé les postes des ouvriers de piste, parce que c'est une promotion maintenant accessible, le poste des qualifiés de chef avion pour les assistants avions. J'essaie de répondre plus simplement.
Pour répondre à la question qui m'a été posée, en fait, pour revenir, parce que je les ai évoquées, effectivement, les différentes pistes qui existent pour les conducteurs face au désenchantement du métier, elles sont très liées, en fait, à la position dans la carrière. Donc, la logique organisationnelle, c'est aussi privilégié par des conducteurs qui sont en début de carrière et qui rencontrent des soucis de santé. Qui
envisagent plus difficilement de se reconvertir ailleurs que dans l'organisation, c'est qu'ils pensent ne pas avoir de ressources pour se reconvertir ailleurs que dans l'organisation. Sinon, les trois autres pistes, c'est soit perdurer dans le métier, donc un peu les conducteurs malgré tout. Généralement, ça caractérise plutôt des conducteurs plus âgés, dont une grande partie sont un peu désabusés. Alors, je me base notamment sur l'analyse de 400 comptes rendus d'entretien professionnel, où notamment donc, les conducteurs devaient définir ce qu'ils comptaient faire dans les années à venir. Qui se mettent plutôt en position de reprendre les termes de Sylvie Monchâtre, de salariés spectateurs. Ou alors, dans ce conducteur, malgré tout, on retrouve ceux qui sont dans des logiques de transgression et de transmission des trucs et astuces de transgression, qui essaient de faire perdurer le métier. Et généralement, ils le transmettent plutôt à des conducteurs qui, eux, sont arrivés sur le métier en seconde partie de carrière, donc qui ont parfois une volonté de faire ce métier depuis un certain temps. Parfois à des héritiers, donc à des enfants de conducteurs, en tout cas des gens qui sont identifiés d'une manière ou d'une autre comme étant capables de faire perdurer le métier. La troisième position, c'est plutôt du retrait, donc c'est des conducteurs qui envisagent de quitter le métier. Ça, c'est plutôt des conducteurs qui vont avoir des ressources pour pouvoir l'envisager. Donc souvent, c'est des conducteurs qui ont des carrières antérieures, alors pas forcément des carrières longues, mais c'est assez classique que les carrières de conducteurs soient un moment dans leur carrière et qui notamment ils des allers-retours entre commerce et conduite. Donc ceux qui sont dans ce cadre-là, éventuellement eux ils envisagent le retrait du métier pour revenir donc, notamment sur des métiers en lien avec le commerce ou avec parfois la restauration. Et puis presque une majorité, eux sont plutôt dans l'idée de réinvestir ou dans l'idée de renouvellement du métier, donc réinvestir sur des aspects service aux clients voir des intérêts à être sur des tournées de distribution, de ramasse ou de relais qui sont plus prévisibles. Et c'est vrai que ceux qui réinvestissent, ça va être plutôt des gens qui sont en mi-carrière. Donc là aussi, c'est très variable en fonction de leur position dans leur carrière et les ressources dont ils peuvent disposer pour envisager autrement la perspective professionnelle.
En fait, j'avais pas posé de question à Michel et elle m'est revenue. Ou alors c'est une deuxième.
Ah ben d'accord, ben vas-y.
Non, en fait, c'était pour expliquer un peu le phénomène extraordinaire de l'histoire des ports, hein, que tu as rappelé, ce retournement finalement, hein, d'un marché des esclaves à une profession très organisée. Tu as donné plein d'éléments, hein, en longue durée, la liberté, hein, t'as insisté sur cette notion de liberté, de circulation, etc. La notion de l'équipe, t'as beaucoup insisté là-dessus, et t'as répondu aussi à une question sur la fermeture du marché du travail, le contrôle du marché du travail. Est-ce qu'il n'y a pas une quatrième dimension, et là qui pourrait faire un lien avec toute une série de professions des transports, c'est la capacité de blocage économique que tu n'as pas cité.
Voilà. J'avais prévu d'y venir. Quand tu, un peu provocateur, tu t'es tourné vers moi à propos des dockers qui sentaient la poussière. Mais alors, forcément, les dockers des historiens sortent la poussière, puisqu'on est toujours dans les archives qui elles-mêmes sont poussiéreuses. Mais oui, ils doivent être à peu près 5000 aujourd'hui. Mais ils tiennent les goulets d'étranglement et ils le savent. Et donc, on l'a bien vu en 2006 et on l'a vu aussi aux États-Unis. Les provoquer, c'est risquer la paralysie. Hein. Ils sont dans une position stratégique. Alors que les conditions de travail ont complètement changé, alors qu'on aurait même pu penser qu'à la fois leur rattachement à des entreprises aurait précipité une identification à des entreprises, ça n'a pas marché. Et le syndicalisme, le syndicat a vraiment lutté contre cette tendance à se replier sur les entreprises, alors que les conditions, on assiste à une industrialisation, non pas une usiniarisation, si je puis dire, mais une industrialisation très tardive de la manutention dans les ports. Et le sommet, c'est évidemment avec la conteneurisation. Là, on a en principe l'idéal d'un flux permanent. Hein, c'est ça. Et ça en principe, c'est quelque chose qui a cassé l'homogénéité des équipes, mais il conserve, outre en quelque sorte une identité, une culture qu'ils transmettent sous la forme de l'opposition, pour aller vite, capital-travail, ils savent leur puissance stratégique. Et ça, c'est très fort hein, chez eux. Alors, tu avais quand même posé une question au départ, qui était celle sur la cohabitation au sein de la Fédération des ports et docks, en gros du nettoyage et des dockers. Alors, forcément, un peu d'histoire. J'ai une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus, Barbara Prost. Ce qui apparaît, c'est que le lien, les fiançailles entre le nettoyage et les dockers a des origines multiples. Il y en a une qui tient à des entreprises. C'est que quand la Fédération des dockers s'est développée dans les années 30, à la faveur de 36, hein, c'est quand même ça, ils englobent les manutentionnaires ferroviaires et portueurs, pas trop, mais surtout ferroviaires. Or, la manutention ferroviaire fonctionne sur des principes qui sont un peu les mêmes que dans les ports. Hein, c'est des chantiers qui sont continuellement renouvelés. Et ce qui va se passer à un moment donné, certaines des entreprises de manutention ferroviaire vont devenir des entreprises de nettoyage, entre autres. Hein, et du coup, là, ils suivent en quelque sorte ce qui se passe dans ces entreprises et ils s'intéressent aux salariés du nettoyage. Bon, là, c'est en quelque sorte en raison de l'extension du secteur. La deuxième chose, c'est qu'il y a des moments clés. Et indéniablement, fin des années 60, début des années 70, outre le développement de l'externalisation et du nettoyage qui fait de cette activité un secteur hein, à part, existe à ce moment-là un certain nombre de militants qui s'intéressent à ça. Et alors, on a une figure tout à fait inattendue dans la Fédération des ports et docks, qui est un prêtre ouvrier, hein, qui est lui-même, qui travaille dans une entreprise de nettoyage à Angers, et qui va se spécialiser sur cette question. C'est-à-dire qu'il va réfléchir, il n'y a pas de convention collective, tout est à faire dans ce domaine, et il va véritablement se mettre dessus et convaincre les gens de la Fédération des ports et docks de s'en occuper. Alors que le nettoyage était au départ, pour la CGT, rattaché à d'autres fédérations, en particulier le commerce, qui ne s'en souciait quasiment pas à l'époque. Et donc, les dockers vont accepter de s'en charger et ils vont véritablement appuyer et soutenir, je dirais techniquement, hein, pas par des actions en direction des entreprises de nettoyage, mais techniquement, ils vont appuyer la construction des premières conventions collectives. Ça, c'est dans les années 70. Et puis après, c'est un fait que chacun va vivre sa vie. Chacun va vivre sa vie avec, par moment, néanmoins, des liens. Tu parlais de Marseille. J'ai le souvenir, encore dans les années 80, de militantes du nettoyage de Marseille. Alors, c'était tout à fait, du point de vue genré, c'était tout à fait intéressant, hein, qui expliquait... Alors, je ne suis pas allé vérifier concrètement ce qui s'était passé. Elles disaient qu'elles étaient très fières d'être avec les gars musclés du syndicat des dockers. Alors, ça mériterait plein de commentaires, je ne les ferai pas ici. Mais ce qu'il y a quand même, c'est que tant dans le nettoyage que sur les ports, on est dans des métiers de marchands d'hommes, au bout du compte. Et qui peut vendre ou négocier le travail de ces hommes? Ça peut être, en effet, des marchandeurs, hein, contremaîtres. Hier ou autre, ou ça peut être le syndicat. Et parfois, ça peut se confondre. Alors, on le sait bien aux États-Unis. Hein, je ne sais plus qui évoquait la thèse de Sébastien Chauvin. On sait très bien que sur la côte est des États-Unis, la mafia s'est emparée des syndicats pour au moins deux raisons. La première évidente, pour les trafics, c'était plus commode quand même s'ils contrôlaient les gens qui l'opéraient. Mais la deuxième, On a des conversations entre mafieux, entre eux, où ils expliquent les Genovèses qui vont construire ça, qui vont contrôler les ports de la côte Est. Je ne sais pas si c'est à Lucky Luciano qu'ils le disent, mais ça pourrait être le cas d'ailleurs, parce qu'il s'est fait prendre, lui, pour ce que les Genovèses ne voulaient plus faire. Il leur expliquait, mais si on exploite des femmes avec la prostitution, on tombe sous le coup de la loi. Si on exploite des hommes avec le syndicat des dockers, là, on est des entrepreneurs. Et ils expliquaient très bien que ça pouvait se faire. Et au fond, le syndicat, là, est un instrument qui offre aux manutentionnaires tant d'hommes à un prix moyennant des pots de vin prélevés sur le dos des ouvriers. Mais c'est possible. Et pourquoi je faisais ce détour par les États-Unis et par le marchandage ? Parce que c'est vrai que dans le nettoyage, y compris d'un point de vue syndical, toutes ces attitudes sont possibles. Et ce que j'ai vu, moi, en discutant avec les dockers, non pas au niveau local, mais au niveau national, c'est qu'en effet, quand on leur parle du nettoyage, ils se grattent un peu la tête et ils ont quelques difficultés. Pour les provoquer, je leur ai dit, de toute façon, ils sont plus nombreux que vous, hein, maintenant, les syndiqués du nettoyage, que les dockers. Et oui, mais comme ils ne paient pas leurs cotisations, on conserve encore le contrôle. Mais manifestement, ce que tu disais sur la cohabitation, c'est vrai. Alors, un malaise plus parisien, pour aller vite, hein, que provincial, mais indéniablement, là, il y a un problème et une inquiétude.
Concernant l'identité statutaire et professionnelle des ouvriers d'origine, j'aurais simplement un fait à relater qui illustre plus ou moins les propos qui ont été tenus ici. Ça se passe dans un collège classé en REP, dans le 20e arrondissement, et les professeurs revendiquaient le passage de classe 4, classe 5 pour avoir plus d'heures. Et ce collège était majoritairement, les parents, c'était vous appelez des ouvriers d'origine. Ils travaillaient dans la logistique, ils travaillaient dans le transport, un peu partout, tout ça. Et puis, on leur donne une fiche où qui est classée suivant les trucs du lycée. Il y a marqué ouvrier, professionnel, cadre. Ils ont tous pointé employés. Tous, majoritairement. Ce qui fait, on n'a pas pu passer au niveau 5 parce qu'il fallait être ouvrier. Donc ça pose vraiment un problème d'identité, comme vous l'avez soulevé.